Voici le troisième épisode de notre série dédiée à l'année 1977. Demandez le programme. Le Concorde, which is not welcome in New York. New York, qui par ailleurs en 77 est paralysé par une panne d'électricité. Et New York encore, qui court après un tueur en série. Cette année-là, il y a aussi la mort d'Elvis. Et puis dans nos archives, j'ai trouvé un homme qui mange tout.
1977, Ondelat raconte sur Europe 1.
En ce début d'année 1977, après s'être posé à Rio de Janeiro, le Concorde voudrait bien se poser à New York. Mais les autorités américaines ne sont pas chaudes.
Votre avion est beaucoup trop polluant. Et puis ça fait trop de bruit. Les New Yorkais n'apprécieront pas.
Jacques Chirac, le nouveau maire de Paris, jette de l'huile sur le feu.
Il ne m'appartient pas de me substituer au gouvernement français. Mais si les Américains répondent non, alors qu'il n'y a aucune raison sérieuse sur le plan technique et à l'atterrissage de Concorde, alors je pense que cela devrait mettre sérieusement en cause les relations entre la France et les États-Unis, et notamment les relations de type commercial. Car il y aurait là une discrimination manifeste et qui, pour moi, serait vraiment quelque chose de sérieux.
Quatre jours plus tard, les États-Unis le répètent, it is still not. C'est toujours non pour le Concorde à New York. À Washington, oui, mais pas à New York. Et là, les Américains réalisent un miracle. Ils se mettent toute la classe politique française à dos. Toute ! Et c'est très rare. Car après Jacques Chirac, c'est le leader socialiste François Mitterrand qui tense les Américains.
Il est assez surprenant et même très choquant qu'un pays qui se réclame du libre-échange, qui en fait même sa philosophie économique, fasse des obstacles devant les marchandises, les biens ou les produits fabriqués venus de l'extérieur dès lors qu'ils gênent ses principaux intérêts.
Et après le RPR Chirac et le socialiste Mitterrand, c'est le communiste Georges Marchais qui embraye.
Je veux attirer votre attention sur l'initiative qui vient d'être prise par notre humanité après le journal Sud-Ouest, de lancer une grande pétition nationale pour exiger que notre Concorde puisse atterrir à New York. Il n'y a aucune raison pour que les avions de fabrication américaine se pose sur les aérodromes français et que les aérodromes américains soient interdits à la production française. La coopération internationale doit se développer dans l'intérêt mutuel des nations. Telle est notre position à nous, communistes.
Mais malgré l'agitation des politiciens français, les mois passent. Et le Concorde n'a toujours pas le feu vert pour New York. Pire, la population new-yorkaise y est totalement réfractaire. Des manifestations se multiplient contre l'arrivée du Concorde. Et en France, on ne rit pas. Ça entraîne des conséquences pour l'emploi.
De délai en délai, l'opposition américaine à Concorde a fait stopper les chaînes de montage. Toutes les commandes étrangères ont été petit à petit annulées. Et même, les options ne sont pas renouvelées. Quatre avions seront dans quelques mois au parking sans espoir de trouver un acheteur. Qui voudrait acheter Concorde ? Alors que les autorisations qui existent actuellement pour les États-Unis ne concernent que Air France et British Airways, et cela pour un nombre de vols limité, et que pire, ces autorisations ne sont pas définitives, puisque la probation imposée par le ministre américain des Transports l'an passé implique 16 mois d'essai à partir du premier vol commercial.
Après 10 mois de crispation, les Français et les Anglais ont une idée pour promouvoir le Concorde. Pourquoi ne pas faire une démonstration sur place ? Alors des tests ont lieu. Et il bluffe le président du port de New York.
Ah, mais ce sacré machin ne déclenche même pas les instruments pour mesurer le bruit. Il est moins bruyant que les 747 à l'atterrissage.
La situation est décrispée. Et le 22 novembre 1977, Pierre Giraudet, le président d'Air France, célèbre le premier vol de Concorde entre Paris et New York, avec 100 passagers à bord.
Il devait partir à 11h, il est parti à 11h11. 11h11 ce matin, Concorde a quitté l'aéroport Charles de Gaulle pour son premier vol commercial à destination de New York, 100 passagers à bord. Pour ce vol tant attendu, un vol qui a suscité bien des querelles et bien des inquiétudes, cette fois Paris-New York en Concorde, c'est fait.
Inutile de revenir sur ce temps peut-être perdu, passé en bataille juridique. Intéressons-nous simplement à l'événement d'aujourd'hui, Paris-New York, en 3h30. Et ce n'est que justice. Justice pour l'aérospatiale et British Aerospace qui ont construit l'avion. Justice pour Air France et British Airways qui exploitent l'avion. Justice enfin pour les deux gouvernements, français et britanniques, qui ont appuyé sans réserve leurs deux compagnies aériennes pour qu'enfin, aujourd'hui, une centaine de passagers puissent aller à New York. Monsieur Giraudet, Concorde a donc gagné cette première bataille, la bataille de New York, une bataille très importante, mais on peut dire qu'il n'a pas encore gagné tout à fait la guerre du transport supersonique.
Il a gagné la bataille essentielle. Nous avons prouvé que ce que nous avions avancé en matière de bruit et de nuisance était vrai. Nous avons confondu nos ennemis qui avaient prédit l'apocalypse.
1977, on de la traconte sur Europe 1.
New York, début juillet 1977, connaît une canicule suffocante. Et après 13 jours de grosse chaleur, ouf, on annonce la pluie. Sauf que ce jour-là, la foudre s'abat sur une centrale électrique au nord de New York. Et la ville est frappée par un gigantesque blackout. Imaginez la plus grande ville du monde, la plus moderne, dans le Schwartz complet.
Depuis 9h30 du soir, 3h30 du matin à Paris, New York et sa banlieue sont dans l'obscurité totale. 8 millions de personnes dans le noir, sans ascenseur, sans métro, sans réfrigération, ni climatisation, par une nuit étouffante, humide, sous un ciel strié d'éclairs. Le maire de New York vient de déclarer un état d'urgence. Tous les agents de police, tous les pompiers ont été rappelés. Des scènes de pillage se déroulent actuellement dans plusieurs quartiers de la ville, notamment à Brooklyn, où les polices ont abandonné le terrain aux émeutiers. Des incendies ont éclaté dans une prison du Bronx. Ambulances et voitures de police sillonnent les rues où la circulation, sans feu ni agent, est sauvage. Les hôpitaux fonctionnent encore normalement grâce à des générateurs de secours. Privés de télévision, privés d'ascenseurs, privés de climatisation, les New-Yorkais passent la nuit dans la rue. Ils attendent dehors, groupés autour de bougies, autour de radios, même dans leur voiture, que le courant soit enfin rétabli.
Des chirurgiens terminent leur opération dans la rue en se servant de batteries de voiture. Et sur Europe numéro 1, on essaye de comprendre avec un ingénieur français comment un simple orage a pu mettre à mal toute la ville.
La température à New York est considérable et tous les gens font marcher leur climatisation et leur congélateur et tout leur matériel à froid. Et je pense qu'il y a dû avoir peut-être de ce côté-là un appel de consommation considérable. Et il semble bien que la société ait été alertée sur cette situation et qu'il y ait eu qu'un appel au peuple demandant que l'on fasse attention, que l'on arrête les climatisations. Est-ce que ça a été entendu, pas entendu? Est-ce que c'est arrivé à temps? J'en sais rien. En tout cas, je crois qu'il avait bien pris conscience qu'ils étaient en situation difficile.
Le lendemain matin, à l'heure où les New-Yorkais partent habituellement au travail, le courant n'est toujours pas rétabli.
Après avoir proclamé l'état d'urgence la nuit dernière, quand la panne a commencé, le maire de New York a déclaré ce matin une journée de vacances. Surtout restez chez vous, n'allez pas au travail et ne prenez pas votre voiture, a dit Monsieur Beam au New Yorkais. Depuis 9h30 hier soir, 3h30 ce matin à Paris, New York est sans électricité, sans train, sans métro, sans feu de circulation, sans climatisation, sans télévision, et ce matin sans pain frais, sans journaux, sans courrier, sans restaurant et sans pompe d'essence ni ascenseur. Les rares boutiques ouvertes sont des épiceries assaillies par des gens qui n'ont plus rien à manger chez eux. Les New-Yorkais qui hier soir avaient pris cette panne comme une occasion de passer une partie de la nuit au frais avec des voisins regardent ce matin leur grande ville inerte sans comprendre comment, 12 ans après le premier blackout, il a suffi d'un orage mal placé pour que cela recommence. Le maire, M. Beam, continue de promettre d'heure en heure que le courant va revenir. Pour le moment, il est revenu brièvement dans un quartier périphérique qui est déjà retombé dans l'obscurité. En se réveillant ce matin, les New-Yorkais ont pu constater le prix d'une nuit sans lumière. Des centaines de boutiques pillées et incendiées, 2000 personnes arrêtées en prison, une police et des pompiers impuissants, une ville à la merci des pillards et d'un disjoncteur qui saute.
4000 pillards sont interpellés et une prison désaffectée est même remise en service pour les incarcérer. Et c'est à ce moment-là qu'un style musical se diffuse dans la ville, le hip-hop. Et pourquoi ? Eh bien parce que pendant cette panne gigantesque, des gamins peu fortunés sont allés voler du matériel de DJ, c'est-à-dire des platines, des micros et des disques. Et c'est comme ça que le hip-hop gagne les rues de Big Apple. Au final, ce blackout dure 36 heures. Et une fois réparé, les New Yorkais rallument leurs transistors. Et que découvrent-ils ? Pas du hip-hop, hein, c'est encore trop tôt. Mais la grande, l'immense Liza Minnelli.
Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York. I wanna wake up in the city that doesn't sleep to find I'm a king of the hill, ha! Top of the heap. My little town melting away. I'll make a brand new start of it in all New York. If I can make it there, I'd make it anywhere. It's up to you, New York, New York.
C'était New York, New York par Liza Minnelli qui, en 1977, joue dans le film de Martin Scorsese, New York, New York, aux côtés de Robert De Niro, et qui chante donc la chanson principale qui a donné son nom au film. À moins que ce soit le film qui ait donné son nom à la chanson.
1977, Ondelatte raconte sur Europe 1.
Deux semaines après la panne géante d'électricité qui a paralysé la ville durant l'été 77, nous sommes toujours à New York, où un tueur en série refait surface. Fin juillet 1977, il est revenu. Il est revenu et les New-Yorkaises vivent de nouveau la peur au ventre, comme l'été précédent. Le fils de Sam, ce tueur en série qui a tué 6 femmes l'année dernière, vient de faire une nouvelle victime. Et comme les fois précédentes, elle est jeune, elle est brune et elle a des cheveux longs. Si bien d'ailleurs que les New-Yorkaises filent se couper les tifs et se faire faire une couleur. La psychose est telle que la police et même la mafia mettent de gros moyens pour neutraliser ce psychopathe. Du jamais vu.
Depuis dimanche, c'est une véritable psychose de la peur qui s'installe à New York la nuit. C'est en effet dimanche, à 2h du matin, que le fils de Sam tirait sur ses dernières victimes. Deux jeunes fiancées, dont la femme, 20 ans, succombait le lendemain à ses blessures. 13 victimes en un an, c'est trop. Pour la police d'abord, qui a décidé de mettre le paquet, quel que soit le prix. La semaine dernière, 150 agents travaillaient sur l'affaire. Aujourd'hui, ils sont près de 700. Et 300 d'entre eux sont des volontaires qui ont offert gratuitement leur service en heures supplémentaires. La population elle-même est invitée à aider à cette chasse à l'homme sans précédent en appelant la police. Et depuis hier, pas moins d'une vingtaine de lignes téléphoniques ont été affectées exclusivement à l'affaire Sam. On apprend même qu'un chef de la mafia new-yorkaise aurait mobilisé 5000 de ses soldats pour mettre un terme au meurtre gratuit de jeunes femmes. Il faut préciser que le mafioso en question, Carmine Galante, a plusieurs filles qui pourraient tomber dans les filets du fils de Sam. On peut donc espérer que cette fois, la police va enfin pouvoir progresser. Mais Sam est vraisemblablement un solitaire, comme il y en a beaucoup dans une ville de 8 millions d'habitants, et jusqu'ici, le principal indice de la police, c'est l'arme dont se sert toujours le tueur, un revolver à barillet de calibre 44. Malheureusement, là aussi, la chasse est difficile. On en a fabriqué 28 000 et 600 d'entre eux ont été volés chez le fabricant. Un espoir pourtant, le préfet de police s'est dit encouragé, ce sont ses propres termes, par plusieurs indices qui auraient été fournis ces dernières 24 heures à la police. On peut donc espérer que d'ici peu, les discothèques et les rues de New York se repeupleront la nuit, car, passé 23 heures, elles sont désertes.
Lors du dernier meurtre, une femme a croisé le tueur en série qui rentrait dans une Ford Galaxy jaune. Grâce à une contravention, la police de New York a enfin son identité.
C'est bien lui, la police a retrouvé l'arme du crime, un revolver à barillet calibre 44. Et les essais balistiques sont concluants, du moins en ce qui concerne la dernière victime. David Berkowitz, c'est son nom, a donc été inculpé tout à l'heure du meurtre de cette victime, une jeune femme abattue dans la nuit du 31 juillet. Et de nombreux indices portent à croire que c'est lui aussi qui a tiré sur 12 autres jeunes gens, dont 6 ont succombé. Premier indice, quand on a arrêté Berkowitz dans sa voiture la nuit dernière, il s'est tout de suite identifié. « Je suis le fils de Sam », a-t-il dit, « vous m'avez eu ». Deuxième indice, l'arme évidemment. Troisième indice, la voiture de Sam se trouvait exactement à l'endroit du crime le 31 juillet. Et on le sait de source sûre, grâce à une contravention pour parking illégal que Sam a récolté ce soir-là. Contravention qui d'ailleurs a contribué assez curieusement à son arrestation. Une femme d'un certain âge sortait son chien et elle a vu la police mettre la contravention sur la voiture. Quelques minutes après, un homme s'est dirigé sur elle d'un air menaçant, avec un objet noir à la main. Mais arrivé près d'elle, brusquement, il fait demi-tour et rentre dans la voiture précisément à la contravention. Probablement parce que cette femme n'était pas suffisamment jeune pour son goût. Terrifiée, la femme a attendu 5 jours pour alerter la police, mais son signalement et surtout l'indice de la contravention ont enfin permis de faire les regroupements nécessaires. Qui est David Berkowitz? Un facteur qui vivait en solitaire dans la banlieue nord de New York. On a d'ailleurs retrouvé dans son studio des lettres semblables à celles qu'il écrivait régulièrement à la police. Des lettres, mais aussi une mitraillette qu'il avait l'intention d'utiliser, écrivait-il, la prochaine fois dans une discothèque.
Un an plus tard, David Berkowitz est condamné à 6 peines de prison à vie. Il entre dans le panthéon des tueurs en série et il en profite. Il en profite en publiant son autobiographie, ce qui paraît complètement dingue. Tellement dingue d'ailleurs que l'État de New York adopte une loi dite « la loi du fils de Sam ». C'est-à-dire que tout profit réalisé par un criminel doit être reversé à un fonds destiné aux victimes.
L'année 1977.
Mais l'aventure n'est pas finie. Goodbye, goodbye Elvis. Sur la terre de Memphis, chaque jour l'été refleurit. Tu as gravé l'histoire du rock and roll dans des sillons d'or. Du fond de ta guitare, les mots s'envolent et les adolescents de toi sont. Toutes les filles auront ton visage et la terre de Memphis pour toi restera toujours couverte de fleurs sauvages. Elvis, goodbye.
C'était Ringo avec Goodbye Elvis en 1977.
1977, Ondelat raconte sur Europe 1.
J'ai choisi de m'arrêter à New York en cette année 1977. Et si l'été 77 a été qualifié de crazy summer, autrement dit d'été de fou, c'est parce qu'il y a eu cette panne géante et ce tueur en série. Mais les États-Unis n'en ont pas fini avec le malheur. Le 16 août 1977, Elvis Presley a 42 ans. Il doit embarquer pour une nouvelle tournée et on annonce qu'il est mort.
C'est vrai, il est mort sans crier gare et l'Amérique est en deuil dans sa famille. Elle a perdu un fils, une idole, un rêve, le rêve américain, cet homme. 3 générations d'Américains pleurent leur adolescence, leur musique, leur propre image. Pour une fois, les journaux, la radio, la télé, les gens oublient l'Amérique des chiffres, des networks et des planning et de la violence et des coups. Parce qu'elle vient d'encaisser un direct qui la touche individuellement, un coup au cœur. Comme chez un ami à Memphis, d'autres ne dormiront pas, il n'y a plus un lit disponible et il y a des gens dans l'avion, un des nombreux avions supplémentaires qui m'ont amené, pleurait. Ça n'a choqué personne. frontière entre les sudistes et les nordistes. Et ce soir, 500 000 blancs et 500 000 noirs vont enterrer leur petit, celui dont ils ont fait le king. Hubert, Europe 1, Memphis, Tennessee, USA.
Toutes les radios du monde cessent leur programme. Ils cassent leur grille, comme on dit dans le métier. Et Johnny Hallyday est l'un des premiers à réagir sur Europe numéro 1.
Donc c'est l'Elvis des débuts, si vous voulez, ça m'a fait autant de peine ce matin, parce que quand on aime quelqu'un, qu'il ne soit plus ce qu'il l'a été, n'a aucune importance. Il restera toujours dans mon cœur, je veux dire, tel que moi je l'ai connu au début et tel qu'il m'a marqué.
Vous l'avez rencontré plusieurs fois ?
Non, je l'ai rencontré une fois, c'était lors d'un de ses spectacles à Lake Tahoe. C'est Sammy Davis Jr. qui nous avait présenté l'un à l'autre à la suite de son spectacle. Je n'ai pas discuté énormément avec Elvis, à part bonjour, bonsoir. Je crois que c'est quelqu'un avec qui on ne discutait pas, à moins d'être très intime avec lui. C'est la dernière des stars qui s'en va.
Dès l'annonce de la mort d'Elvis, la maison du King, Graceland, est prise d'assaut par les fans. Et François Ponchelet d'Europe numéro 1 est sur place.
Ce qui s'est passé cette nuit sur le large boulevard qui porte le nom d'Elvis Presley ne fait que confirmer les craintes du gouverneur de l'État du Tennessee qui a mobilisé 500 gardes nationaux pour assurer l'ordre et la sécurité autour de Graceland, la villa de l'idole disparue, encore en pleine force de l'âge et toujours en pleine gloire malgré la maladie. Depuis 48 heures, des dizaines de milliers de fans ou simplement de curieux s'agglutinent littéralement autour de la propriété, occupent le boulevard Elvis Presley. La police, la radio lancent des appels aux automobilistes pour qu'ils évitent le quartier, mais rien n'y fait, Presley est mort, attire autant la foule que le roi du rock vivant. Il s'est donc installé une sorte d'atmosphère assez bizarre, tout à la fois de recueillement, mais aussi d'hystérie et pourquoi ne pas le dire de kermesse. Il fait chaud, la foule boit de la bière, des sodas, la foule pleure, la foule veut voir une dernière fois dans son cercueil le chanteur immobile dans son smoking blanc. La foule se bouscule, s'énerve et c'est le drame. Un automobiliste, sans doute un peu éméché, renverse cette nuit et tue une femme et ses deux fillettes. C'est le sort des idoles de quitter définitivement la scène dans le drame et la frénésie. On peut donc redouter ce qui va se passer cet après-midi, car toute la nuit, des avions entiers, des cars venus de tous les États-Unis et même du Canada ont débarqué des flots de fans déboussolés par la mort de l'idole. Les vedettes, on ne les a pas encore vues. On dit que les Beatles viendront rendre hommage au pape du rock. Il y aura Jackie Onassis et sa fille Caroline Kennedy, Sammy Davis Jr., Burt Lancaster, un véritable show de number one qu'aucun habitant de Memphis ne veut manquer.
Pendant deux jours, la dépouille du chanteur est exposée aux fans. 70 000 personnes veulent le voir. Mais seulement 20 000 y parviennent. Et Europe numéro 1 joint un témoin sur place.
Je crois qu'ils viennent d'arrêter. Ils ont fermé les portes de Graceland à 6h30. Finalement, il y avait encore des milliers et des milliers de personnes qui attendaient, qui espéraient pouvoir passer devant la bière. Finalement, elles sont assez déçues. Et c'est pas mal, je crois, de bousculades dans la foule. Il y avait eu à peu près 50 personnes qui ont dû être hospitalisées, évanouissement, pleurs. Vous pouvez imaginer.
Parmi ce public, je crois qu'il y a en majorité des femmes surtout.
Ah oui, surtout les femmes, de tous les âges, de 10 ans jusqu'à 40 ans. Vous pouvez imaginer deux générations de femmes, n'est-ce pas ? Et c'est d'ailleurs assez amusant de voir, enfin, je suis allé à mon travail, à l'université, là, je vois toutes mes secrétaires qui étaient en train de pleurer sur leur machine à taper, n'est-ce pas ? Chaque moment, ils avaient toutes leurs radios aussi. Sur certaines stations qui ne faisaient que passer que des chansons d'Elvis Presley. Chaque fois, notamment qu'Elvis chantait, c'était toujours, ils repleuraient.
200 000 personnes sont présentes à Memphis le jour des obsèques du King. Mais stupeur pour les fans, ils ne pourront pas y assister.
Les funérailles auront lieu tout à l'heure dans la plus stricte intimité. Pas de fans, pas de badauds, pas de journalistes. La famille d'Elvis Presley a voulu le garder pour elle seule. Le public se sent un peu frustré d'une idole qui lui fausse doublement compagnie. D'abord la mort brutale, ensuite la cérémonie privée, bien que télévisée en direct par plusieurs chaînes locales. Rex Humbard, un évangéliste de l'Ohio qui était très lié à Elvis Presley, dira l'office dans la demeure même du roi du rock. Y assisteront le père d'Elvis,
sa fille, Lisa Mary, Tom Parker, son impresario, dit le colonel, et les grands du show business venus à Memphis, John Wayne, Burt Lancaster, Caroline Kennedy et Jacqueline Onassis, entre autres. La rumeur de l'arrivée des Beatles ne semble pas se confirmer. Après l'office, le lourd cercueil lamé de cuivre, il pèse 400 kilos, sera fermé. Et Elvis Presley, dans son smoking blanc, sa cravate bleue nuit, sa chemise bleue électrique offerte par son père à Noël dernier, Elvis disparaîtra à tout jamais des regards qu'ils ont adulés. L'inhumation aura lieu dans le coin sud-ouest du cimetière de Forest Hill, où se dresse le mausolée de la famille Presley. Le cimetière, interdit au public depuis ce matin, restera fermé pendant une heure après la cérémonie privée, et c'est alors seulement que le public pourra venir s'incliner. Presley est mort, mais sa vraie légende ne fait peut-être que commencer. Partout dans les rues de Memphis, où tous les drapeaux sont en berne, on commence à voir sur les panneaux publicitaires des inscriptions comme celle-ci. Elvis, l'homme est parti, mais son souvenir restera toujours.
Le dernier 45 tours d'Elvis, eh ben le voilà, Moody Blue, sorti le 19 juillet 77 au beau milieu du Crazy Summer.
Well, it's hard to be a gambler betting on the number that changes every time. When you think you're gonna win, you think she's giving in. A stranger's all you'll find. Yeah, it's hard to figure out what she's all about, but she's woman through and through. She's a complicated lady, so call her my baby, your Moody Blue. Oh, Moody Blue, tell me am I getting through? I keep hanging on, trying to learn your song, but I never do.
On de la traconte sur Europe 1.
Retour en France en 1977. Cette année-là, un certain Michel Lolito, surnommé Monsieur Mange-Tout, fait un carton dans les cabarets. Il mange tout ce qui n'est pas comestible, métal, verre, caoutchouc. Il a débuté à 9 ans et se produit depuis ses 16 ans. Son spectacle est effrayant.
Vous mangez quel poids de bicyclette chaque jour?
20 grammes tous les heures, comme j'en mange 10 fois par jour, 200 grammes par jour.
Et c'est la première bicyclette que vous mangez?
La première bicyclette en public. J'en ai mangé au cours de l'année au moins deux.
Vous avez déjà mangé de la bicyclette en privé alors?
Oui, mais entre moi et mon docteur. Uniquement pour faire des essais, je suis resté même plusieurs jours et nuits chez lui. Il a pris, il a fait des analyses de sang, même à la selle, pour voir, pour constater. Et tout se passait bien. Le docteur m'a dit, vas-y, je te donne feu vert.
Et quel est votre morceau préféré dans la bicyclette?
C'est la chaîne. La chaîne parce que c'est gras, ça descend de suite. Il y a plus de goût. Là, c'est brut, tandis que là, c'est comme une salade. Avec un peu d'huile, c'est toujours meilleur.
Et vous mangez ça en buvant un peu tout de même, non?
Ben, de temps en temps, je bois un petit verre d'eau pour faire avaler ça, parce que des fois, ça reste un peu bloqué dans le tube. Alors, pour faire descendre mieux, je vale un peu.
Alors, du fer plus de l'eau, vous n'avez pas peur de rouiller, non?
Ben, rouiller, si depuis le temps que je mange du verre et je bois de l'eau, ça me fait rien.
Pour manger une bicyclette, ça ne se fait tout de même pas avec un couteau et une fourchette, je suppose.
Ben pour moi, le couvert, c'est une scie, une pince, une lime, c'est tout.
Alors, sur Europe numéro 1, on consulte le docteur Philippe Jeunet. Manger de tout, Est-ce que c'est bien raisonnable?
Le litho a un estomac beaucoup plus tolérant que les autres et dont le pylore s'ouvre facilement pour évacuer ses corps étrangers, ses morceaux de bicyclette dans l'intestin. Mais un risque majeur. S'ils sont trop gros, coupants ou pointus, ils peuvent se bloquer dans l'estomac ou dans l'intestin et provoquer des accidents. Perforation, hémorragie, occlusion, voire même se bloquer à la sortie.
Un peu plus tard, Michel Lolito va s'attaquer à son plus grand projet. Manger un avion, un Cessna 150 de près de 500 kilos. C'était Jean-Michel Jarre en 1977 avec son titre Oxygène 4. Julien Pichenet, Guillaume Maury et Guillaume Vassaud sont mes lieutenants dans cette aventure. La suite de notre visite privée de l'année 1977 dans le quatrième épisode d'Onde la traconte une année.
Retrouvez Onde la traconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.